chemin de la sagesse. Une émission proposée par Michel Théron.
Et oui, les chemins de la sagesse publiés aux éditions BOD, dont nous arrivons quasiment à la fin, Michel.
Bonjour Hélène, bonjour à tous. Eh bien oui, nous arrivons à la fin de mon livre. C'est l'avant-avant-dernier chapitre, l'antépénultième en quelque sorte, hein, qui s'appelle « L'ange et la bête ». Alors je dirais qu'il y a dans l'être humain deux pôles ou deux tendances symétriques et opposées. D'une part, il y a un élan qui pousse l'homme à s'élever, à s'exalter. Et d'autre part, il y a une tentation inverse qui le pousse assez paradoxalement d'ailleurs à s'abaisser, voire à s'avilir. Baudelaire parle de la présence en nous d'une double postulation simultanée, l'une vers Dieu et l'autre vers Satan. Alors je laisse de côté ce vocabulaire théologique, et je prendrai la chose de façon totalement métaphorique, Dieu et Satan. Alors une grande loi psychologique a été formulée par Jung sous le nom de énantiodromie. C'est un mot qui vient du grec, c'est-à-dire basculement à l'opposé. À trop vouloir s'élever, par exemple, on court le risque par réaction inverse à tomber dans l'excès contraire. Et plus haut on est allé, où on a pensé aller, plus bas on va se trouver à la fin. Et là-dessus, le philosophe et théologien Pascal a dit l'essentiel, l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. C'est d'où le titre de mon chapitre, l'ange et la bête. Prenons le cas par exemple de la piété religieuse, elle peut être au moins pour certains une très bonne chose, mais quand elle est poussée trop loin, elle aboutit à ce que Molière critique dans Tartuffe. À propos de Tartuffe, le faux dévot, Molière écrit « Un rien presque suffit pour le scandaliser, jusque-là qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère. » Ah, vous voyez, c'est cocasse, il pousse la piété jusqu'à refuser de tuer une puce, justement, ou plutôt de la tuer en se mettant en colère contre elle. Alors bien sûr, on pourrait tirer de tout cela une leçon de modération en disant que tout excès est nocif, puisque la modération va toujours avec l'image qu'on se fait habituellement de la sagesse. Mais enfin, il vaut mieux creuser cette question qui s'incarne dans toutes nos vies. Alors quelle est donc la part de l'ange, ce qui en nous élève vers les sphères éthérées, je dirais. Alors essentiellement un désir de pureté, un désir d'absence totale de mélange avec ce qui est trivial dans la vie, une volonté d'arrêt dans certains instants, un refus du changement. Alors voilà, Guylaine, je vous pose une question. Est-ce que le changement, vous l'admettez? Est-ce que vous pensez que la vie est changement?
Oui.
Oui.
Moi,
voilà.
Je pense que oui.
Eh bien, ça corrobore ce que je dis dans mon chapitre.
Tant
c'est
mieux.
Frappant dans
Tant
le monde
mieux.
Affectif.
Oui.
Alors, on dit parfois que les femmes veulent changer les hommes.
Uh-huh.
Eh bien, je dirais, moi, en tant qu'homme, que les hommes ne veulent pas que les femmes changent. Et on voit bien ça dans le film d'Hitchcock, qui s'appelle Vertigo, en français sueur froide, où le héros poursuit toujours la même femme, même quand elle a changé de look. Par exemple, si j'aimais une blonde aux longs cheveux, je n'admettrais pas qu'elle les fasse couper et qu'elle les fasse teindre pour se métamorphoser en brune. Tant il est vrai que, comme le dit Alquier dans Le désir d'éternité, la passion amoureuse est un refus du changement. Alors je répète que c'est là une vision masculine, et qui va peut-être à contre-courant de ce que veut la vie. La vie veut le changement et les plaisirs du changement. Mais enfin, ce qui est plaisir pour une femme est souvent une déception pour un homme.
Ah,
non,
oui,
je vous vois réagir, Hélène.
Je sais pas, vous avez un exemple?
Ah ben, moi, je vous dis, lorsque j'étais marié, j'ai aimé une femme avec de longs cheveux. Un jour, elle est venue en ayant coupé ses cheveux.
Ouais.
Alors, ça a été un effondrement des projections que j'avais faites à son propos.
Mais ça ne peut pas se limiter à la parure. Ce que vous êtes
bien
en train
sûr,
de me dire.
Bien sûr, on le voudrait, hein. Mais c'est masculin, je pense, de vouloir éterniser, par exemple, une femme qu'il rencontre dans une vision qui a créé une sidération à un certain moment, hein, et après de refuser de voir les changements. Tandis que du point de vue féminin, la femme, effectivement, je comprends, Guylaine, elle peut vouloir changer de look, se métamorphoser, etc.
Mais, elle prend un risque, alors, si je comprends bien.
Elle prend peut-être, hein, un risque par rapport à la psyché masculine. Et alors, vous savez, dans la vie, il y a des moments parfaits, hein, je parlais de la sidération. Alors, nous voudrions que ces moments parfaits durent toujours. Et à la limite, pourquoi survivre à ces moments parfaits? Quand on est heureux, pleinement heureux, je pense qu'on devrait mourir. Alors, vous allez me dire, oulala, la formulation est très paradoxale. Mais enfin, elle s'explique, hein, ce désir d'arrêter le temps. Bon, autant suspend ton vol, comme dit le poète, hein. Mais c'est une illusion, car la vie continue avec ses hauts et ses bas, hein. Et le temps dévore tout. Il engloutit ses propres enfants, comme Cronos, hein, le dieu du temps dans l'Antiquité, ou Saturne dans sa version latine. Il y a un tableau de Goya qui s'appelle Saturne, où on voit justement de façon effrayante un ogre, hein, qui dévore sa victime, hein. Et alors, la flamme initiale, par exemple dans l'amour, hein, va devenir de la braise, hein, et d'abord, et puis des cendres. Hein. Nos plus beaux enthousiasmes se refroidissent, hein, soit du fait des événements extérieurs, soit de notre propre fait. Hein. Et il y a une sorte d'entropie universelle. L'entropie, c'est le deuxième principe de la thermodynamique, le principe de Carnot-Clausius, qui nous dit que dans un système clos, l'énergie va en se dissipant. Hein, voilà. Et alors, au sens philosophique, l'entropie, c'est le refroidissement des choses dans la vie. Quand on aime, par exemple, on peut bien sûr se plaindre du refroidissement de l'autre et d'être abandonné par l'autre. Alors, un proverbe nous dit « une de perdue, 10 de retrouvée ». Mais c'est un proverbe trivial et, je dirais, malhonnête, hein. Il est inopérant pour celui qui vient d'être quitté, qui a été comme fusillé à bout portant, qui tourne en rond chez lui et dont le téléphone ne sonne plus. Y a-t-il quelque chose de pire qu'un téléphone qui ne sonne pas, hein? Bon, alors la trivialité de cette maxime, une de perdue, 10 de retrouvée, nous révolte, hein? Et la tautologie, d'ailleurs, est meilleure dans son cynisme désespéré et son refus de toute consolation. Une de perdue, point. Voilà, vous voyez, c'est ça la tautologie, dire une évidence. Mais aussi, le problème ne se pose pas seulement quand on est quitté, mais aussi quand soi-même on cesse d'aimer, hein. Alors là est la rançon de notre finitude. La lassitude n'est pas que d'un seul côté. Et dans le monde des sentiments que l'on éprouve, il est rare qu'on ait les moyens de ses ambitions. Nul ne peut maîtriser son cœur. Et en matière de cœur, tout ce qui commence n'a aucune garantie de durée. Alors je dirais, en jouant sur les mots, d'abord on s'enlace, et puis on s'enlace, vous voyez, hein. Alors on dit que si l'amour fait passer le temps fait passer l'amour. On a peut-être raison sur la deuxième proposition, hein. Mais cette sagesse souriante et insouciante ne convient pas au cœur sensible. Si c'est faiblesse que d'aimer, c'est faiblesse aussi de cesser d'aimer, hein. Lorsque les passions nous quittent, dit La Rochefoucauld, nous nous flattons de la croyance que c'est nous qui les quittons, hein. Et on voudrait aimer toujours, mais on ne le peut pas. C'est ce que Proust appelées les intermittences du cœur. Voyez la fin d'un amour de Swann de Proust. Hein. Le héros, Swann, regrette d'avoir eu son plus grand amour au point de vouloir en mourir avec une femme qui, dit-il, ne lui plaisait pas, qui n'était pas son genre. Donc, lassons l'ironie et le tragique de notre finitude. Vous savez, paradoxalement, on est moins effrayé dans la vie par les souffrances que par le fait que les souffrances ne durent pas. Hein. Les croyants nous menacent de l'enfer en nous disant que c'est un lieu de peines éternelles. Eh bien, moi, je pense que l'enfer, nous y sommes ici-bas. Nous sommes dans l'enfer. L'enfer, nous devons l'inverser. L'enfer, c'est qu'il n'y a pas de peines éternelles. Vous voyez, on voudrait toujours, hein, mais aimer, hein, mais un beau matin, on se regardera dans la glace, il fera beau dehors, les oiseaux chanteront, et on s'apercevra que l'amour nous a quittés. Vous voyez, et donc on ne peut pas toujours verser des pleurs. Le premier rayon de soleil venu est capable de les chasser. Vous savez, dans les cimetières, on voit toujours l'expression « regrets éternels ». Mais non, ils n'existent pas, ces regrets éternels. Ils disparaissent simplement par un jour de beau temps. Voyez ce que dit un grand sage, qui est La Fontaine, dans une fable qui s'appelle « La jeune veuve ». On fait beaucoup de bruit, et puis on s'en sait grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne, vous voyez. Ou alors écoutez Musset dans La nuit d'octobre. Le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve. Je n'en puis comparer le lointain souvenir qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève et qu'avec la rosée on voit s'évanouir. Alors tout cela on le sait, mais a posteriori, pour l'avoir vécu. Mais quand on est instruit de ce savoir, la pire des choses, ce serait que dans le feu même de la passion ou de l'élan, ce serait le fait de prévoir sa fin, et cette prémonition est peut-être pire que l'expérience elle-même de l'issue. Hein. Qu'est-ce qu'on gagne ici à la lucidité, sinon une inquiétude définitive? Voyez ce que dit le poète latin Tibulle à l'adresse de sa bien-aimée. Je vous le dis en latin, « necte posse carere velim ». Alors je traduis « et je ne voudrais pas ». Pouvoir me passer de toi, vous voyez, hein. Ça, c'est très tragique, l'idée que quand on aime, l'amour peut avoir une fin. Et alors, à des siècles de distance, hein, Georges Brassens fait écho à cette même idée dans la chanson que nous allons entendre, le 22 septembre.
Un 22 septembre, au diable vous partîtes, et depuis chaque année, à la date susdite, je mouillais mon mouchoir en souvenir de vous. Or nous y revoilà, mais je reste de pierre, plus une seule larme à me mettre aux paupières. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. On ne reverra plus autant des feuilles mortes, cette âme en peine qui me ressemble et qui porte le deuil de chaque feuille en souvenir de vous. Que le brave Prévert et ses escargots veuillent bien se passer de moi pour enterrer les feuilles. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Jadis ouvrant mes bras comme une paire d'ailes, je montais jusqu'au ciel pour suivre l'hirondelle et me romper les os en souvenir de vous. Le complexe d'Icare à présent m'abandonne. L'hirondelle en partant ne fera plus l'automne. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Pieusement noué d'un bout de vos dentelles, j'avais sur ma fenêtre un bouquet d'immortelles que j'arrosais de pleurs en souvenir de vous. Je m'en vais les offrir au premier mort qui passe. Les regrets éternels à présent me dépassent. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Désormais, le petit bout de cœur qui me reste ne traversera plus l'équinoxe funeste en battant la breloque en souvenir de vous. Il a craché sa flamme et ses cendres s'éteignent. À peine y pourrait-on rôtir quatre châtaignes. Le 22 septembre, aujourd'hui je m'en fous. Et c'est triste de n'être plus triste sans vous.
Le 22 septembre, la chanson de Georges Brassens, c'est une chanson qui nous accompagne, Michel Théron, pour votre livre « Sur les chemins de la sagesse, l'ange et la bête ». Une belle chanson sur la séparation.
Ben oui, parce que la fin est tragique. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Et c'est triste de n'être plus triste sans vous.
Oui.
C'est exactement ce que dit Tibulle, hein. Et je ne voudrais pas pouvoir me passer de toi, vous voyez,
hein. Absolument.
Voilà. Alors chacun voudrait que sa vie soit entourée de poésie, que chacun de ses moments soit un moment parfait. Mais la vie, elle est différente. Elle est désordre. Elle est mélange, par exemple, les élans et leurs retombées, hein. Alors il faudrait avoir la sagesse d'apprécier les élans et de mépriser les retombées, de voir la vie comme une suite d'extases et de dédains, je dirais de haut et de bas, vous voyez, des choses comme ça, hein. Mais rares sont ceux qui peuvent faire ça, admirer les premiers et mépriser les seconds, hein. En fait, vous voyez, Guylaine, il n'y a que l'art qui met la vie en ordre. Un film, disait Truffaut, c'est comme un train qui roule dans la nuit et qui trace silencieusement et inéluctablement sa route sur des rails luisants, hein. Et cette impression de nécessité destinale est ignorée de la vie elle-même. Elle n'apparaît dans la vie que rétrospectivement, dans le souvenir qu'elle nous laisse, lorsqu'on se met à raconter la vie, quand on la met en scène au moyen des mots. Mais quand on la vit, tout n'est qu'aléatoire, contingent, erratique, et toute dimension de destin en est absente, de nécessité, hein. Quand je sors de chez moi, il peut m'arriver une belle rencontre, mais c'est contingent. Alors que si je raconte cette histoire, un jour je sortais de chez moi, alors l'auditeur va dire, ah, il me dit ça, donc ça veut dire quelque chose qui va lui arriver, quelque chose d'important, d'intéressant, hein, et donc il prête l'oreille, vous voyez. Je m'inspire ici de ce que dit Sartre dans La Nausée, hein. Sartre critique ceux qui voudraient que la vie soit exempte d'imperfection, frappée au coin de la nécessité, à l'image des œuvres d'art, hein. Alors les œuvres d'art nous font miroiter une vie parfaite, hein, mais dans la réalité elles nous font honte de notre existence. Au cinéma, par exemple, le héros embrasse sa bien-aimée dans un magnifique gros plan, ensuite vous avez un beau fondu, hein, fondu enchaîné, et ensuite on les voit tous les deux reposant côte à côte sur un bel oreiller. Mais dans la vie, c'est pas comme ça. Tout est différent. Il n'y a pas de fondu, hein. Il y a tout le banal et tout souvent tout le sordide qui sépare les deux plans du film, hein. Encore, j'ai parlé des films traditionnels parce que maintenant, on est habitué à avoir des coucheries au cinéma, hein. Mais
Ce
n'est pas plus réel. Dans la vie, tout est différent. Je ne sais pas si vous avez vu, Guylaine, le film de Woody Allen, La Rose pourpre du Caire. Vous voyez, eh bien, l'héroïne, qui est un peu bovarique, au sens où elle va au cinéma pour oublier la vie, pour oublier la platitude de la vie, comme Emma Bovary lit des romans romanesques dans le roman de Flaubert pour oublier cette platitude, eh bien, l'héroïne, qui est jouée par Mia Farrow, hein, elle va justement s'évader au cinéma. Et puis ensuite, Le personnage descend de l'écran, hein, et va dans la salle, et alors il se dit, mais il n'y a plus de fondu, où est mon fondu, hein. En fait, la vie n'est pas poétique, ou plutôt, elle n'est pas que poétique, vous voyez. Alors j'appellerai angélisme le désir d'une vie toujours paradisiaque, exempte d'imperfection et de médiocrité, d'une vie pure et sans mélange, comme un diamant sans scorie. Hein. Alors si l'homme est enlisé dans la contingence de l'existence, pour emprunter ce vocabulaire à Sartre, hein, et l'homme ne peut alors dans la vie que se sentir en exil. Il est halogène. Alors attention, c'est pas le lampadaire halogène. Hein. C'est, voilà, il vient d'ailleurs. Hein, voilà, c'est du grec, hein, comme disaient les gnostiques. Hein, nous sommes d'ailleurs. Et de ce lieu dont il vient, l'homme a toujours la nostalgie. Alors qu'est-ce que ça veut dire nostalgie?
Semitant.
Nostu algeia, ça veut dire la maladie du retour. Hein, nostu algeia. Donc, Lamartine a bien caractérisé ce divorce hein, quand il dit, borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Alors, c'est pour cela que ce qui nous plaît davantage, je ne sais pas si c'est votre avis, Guylaine, dans les musiques, ce sont les musiques tristes, les musiques en mode mineur, qui touchent ce point sensible, ce point de nostalgie. Elles parlent plus à l'homme, me semble-t-il, hein, que les musiques gaies et entraînantes, comme Chateaubriand l'a dit, par exemple, dans son Génie du christianisme. C'est que ces musiques tristes touchent un point plus profond. Voyez, par exemple, la saudade portugaise, hein, qui est pleine de nostalgie, ou bien le tango argentin. Le tango, disait Jorge Luis Borges, hein, c'est une pensée triste qui se danse. Hein. Donc la vie est un exil, et c'est l'inscription que Victor Hugo avait fait graver en grandes lettres dans la salle à manger de Guernesey. Exilium vita est, la vie est un exil. Alors quel est le destin ordinaire de l'angélisme? Comment est-ce que l'on passe de l'ange à la bête? Comment se vérifie l'intuition d'Héraclite selon laquelle les contraires se touchent. Eh bien, l'ange dans l'homme le pousse à indéfiniment monter vers l'idéal. L'homme va s'exalter au sens propre et latin de ce mot. Il va s'élever, exalter, exaltare. Hein. Et ce qui attend l'homme est parfaitement figuré par un mythe grec. C'est le mythe d'Icare. Et dans la chanson que vous avez entendue, le 22 septembre, Brassens dit bien « Le complexe d'Icare aujourd'hui m'abandonne ». Vous voyez ? Je signale par parenthèse que les textes de toutes ces chansons figurent à la fin de mon livre où il y a une mini-anthologie poétique hein, où j'ai illustré justement ce que je dis abstraitement dans le corps du livre au moyen de textes sensibles. Alors, vous connaissez l'histoire d'Icare, voulant s'approcher du soleil, les ailes que lui avait confectionnées son père Dédale en les attachant avec de la cire ont fondu du fait de la chaleur. Ensuite de quoi, Icare a été précipité dans la mer où il s'est noyé. Alors on peut rapprocher de cette histoire l'histoire de Phaéton qui voulut conduire le char d'Apollon, de Phébus, Phoibos Apollon, Apollon resplendissant, lumineux, hein, et rivaliser ainsi avec Hélios, le dieu du soleil. Mais Phaéton ne put maîtriser ce char et Zeus le foudroya pour éviter le chaos dans lequel sa tentative risquait de précipiter le monde. Donc, le destin d'Icare est parlant. Une trop grande exaltation mène à une submersion, un engloutissement. Hein. Alors, bien sûr, dans l'histoire d'Icare, on peut voir, bien sûr, tout simplement l'orgueil de l'homme, hybris en grec, châtillé par la justice divine, Némésis. Mais quel est précisément le contenu de cet orgueil? Alors, le soleil incarne la clarté et la beauté corrélative. Disons alors que l'histoire d'Icare figure le désir que la vie soit toujours belle, toujours conforme à l'idéal, ornée d'une poésie inaltérable. Et c'est ainsi que Baudelaire comprend ce mythe dans un poème des Fleurs du Mal qui s'intitule « Les plaintes d'un Icare ». Je vous le lis, ce poème figure aussi à la fin de mon livre dans l'anthologie poétique. « Plaintes d'un Icare ». Les amants des prostituées sont heureux, dispos et repus. Quant à moi, mes bras sont rompus pour avoir étreint des nuées. C'est grâce aux astres non pareils qui tout au fond du ciel flamboient que mes yeux consumés ne voient que des souvenirs de soleil. En vain j'ai voulu de l'espace, trouver la fin et le milieu. Sous je ne sais quel œil de feu, je sens mon aile qui se casse, et brûlé par l'amour du beau, je n'aurai pas l'honneur sublime de donner mon nom à l'abîme qui me servira de tombeau. Donc cela veut dire justement que à force d'exaltation, à force de désir que la vie soit parfaite, on court à l'abîme, à une catastrophe. Alors, cette catastrophe qui survient, c'est à mon avis un pôle essentiel de notre psyché. Cette mort par noyade peut être interprétée symboliquement, non pas comme une mort physique, quelqu'un qui, par exemple, tomberait de son ULM ou comme ça, s'engloutir dans le flot, hein, bon, mais comme une mort spirituelle, hein. Celle, par exemple, que l'on voit dans une strophe de notre poème de Mallarmé que j'ai cité à la fin de mon ouvrage, qui s'appelle L'Azur, hein, et on voit le poète contre la tentation de l'exaltation incarnée par le ciel bleu, l'azur du ciel bleu, le poète va chercher un anéantissement provisoire en forme de suicide spirituel. Voici comment se passe cette phase. Le ciel est mort. Vers toi j'accours, donne aux matières l'oubli de l'idéal cruel et du péché à ce martyr qui vient partager la litière où le bétail heureux des hommes est couché. Vous voyez, comme un bétail, ben l'homme va trouver un refuge où il se sentira au chaud, mais c'est un suicide spirituel, c'est la mort de l'âme, hein. Bon, c'est bien de cela qu'il s'agit. Formulé ainsi, cette mort est une déchéance déploré comme tel, un reniement amer des anciennes illusions, un navrant requiem pour les rêves. Hein. Et celui qui voit ainsi que la perfection, comme le royaume de Dieu, n'est pas de ce monde, c'est dans l'évangile de Jean, mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus. Hein. Bon, celui qui voit que la perfection n'est pas de ce monde peut simplement le regretter et s'enfoncer dans la mélancolie de l'échec, dans l'écroulement des premières illusions. C'est un martyr au bras rompu d'avoir voulu trop s'élever. Là, je recite Baudelaire. Hein. Et il y aurait là une amère sagesse de la résignation, encore que le mot de sagesse ici ne me semble pas convenir pour qualifier un tel reniement. Mais un autre scénario est possible, et sans doute, hélas, très fréquent, pour réagir et répondre à cet échec de l'exaltation. Alors, nous allons ménager le suspense, Guylaine.
Bravo, Michel.
Nous verrons en quoi, une autre solution, enfin, peut-être pas une solution, mais un autre pôle du psychisme peut ici être décrit. Toujours dans le cas de l'ange et la bête. Après l'ange, nous verrons la bête.
Au revoir et à la semaine prochaine.
Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.